franceinter.fr. France Inter en direct de Nice. Matinale spéciale. Marc Fauvel.
Un camion qui fonce sur la foule remontant sur 2 km. La promenade des Anglais fauchant des centaines de personnes sur son parcours. Personne, évidemment, n'a oublié ces images de Nice, ni celles des corps alignés sur le front de mer ce 14 juillet 2016, soir de fête nationale et de feux d'artifice. Après Paris, Nice découvrait à son tour l'horreur des attentats et ce bilan terrible. 86 morts, 450 blessés, sans compter les milliers de personnes encore traumatisées par ce qu'elles ont vécu cette nuit-là et qu'il a fallu soigner et prendre en charge. Comment vit-on après une telle attaque revendiquée deux jours plus tard par Daesh? Comment Nice s'est-elle remise debout aujourd'hui? Et comment vit-elle après ce traumatisme? Voilà quelques-unes des questions qu'on posera jusqu'à 9h à nos invités et à la première d'entre elles. Bonjour Émilie Petitjean.
Bonjour.
Ce soir du 14 juillet, vous avez perdu votre fils aîné, Romain. Il avait 10 ans, il était sur la promenade des Anglais quand le camion est arrivé. Vous êtes aujourd'hui la présidente de l'association Promenade des Anges, association d'aide et de défense des victimes. Comment allez-vous ?
Pas très bien. on a l'impression qu'au fil de l'année, on a réussi à surmonter des traumatismes et à avoir réussi à avancer. Et finalement, l'arrivée de cette date anniversaire est assez terrible à supporter. Elle réveille des angoisses, des cauchemars qui sont plus violents encore que ceux qu'on avait l'année dernière. Voilà, donc c'est pas la grande forme.
Vous le vivez comme une nouvelle épreuve, vous les vivez, ces commémorations?
Oui.
Vous êtes préparé à ce que vous allez vivre dans les heures qui viennent, les témoignages qui vont remonter, la douleur sans doute aussi?
Oui, forcément, parce qu'on sait très bien que ça a tellement choqué la France entière, cet attentat, que toute la France a besoin de savoir comment on va et les journalistes appellent en permanence à l'association pour poser systématiquement cette question. Donc maintenant, oui, je me suis préparée. Je sais que ça va être très chargé en émotions, mais en même temps, c'était nécessaire pour que chaque Niçois, chaque victime puisse se retrouver dans ces commémorations.
Cette association, la Promenade des Anges, qui regroupe donc les familles, les proches des victimes, est-ce qu'elle a été pour vous une sorte de branche à laquelle se rattraper après le drame que vous avez vécu?
Un petit peu, oui. Quand j'en ai pris la présidence au mois de janvier, j'avais eu le temps, contrairement à d'autres, de penser à moi depuis l'attentat et de penser à ma famille. Et après, ça a eu un effet effectivement thérapeutique de pouvoir aider les autres et d'avoir le sentiment d'apporter quelque chose, comme pour toute l'équipe d'ailleurs, hein, parce que je ne suis pas seule, heureusement. Mais je sais que j'y resterai pas non plus des mois encore, parce que j'ai besoin aussi... Parce que l'effet pervers d'être dans cette association, c'est que ça ramène systématiquement à cette funeste nuit et qu'à un moment donné, on a besoin de passer à autre chose.
Qu'est-ce qui vous fait tenir debout aujourd'hui ?
Bon, notre fils, mon mari, ma famille, mes proches et les remerciements que je peux recevoir des victimes pour les combats que l'on mène. Donc tout ça, c'est tout un ensemble.
Il y a eu 3000 dossiers d'indemnisation déposés après l'attentat de Nice. 1600 ont déjà été pris en compte. Est-ce qu'il a été compliqué pour vous de faire reconnaître, pour vous et pour les gens que vous représentez, le statut de victime ce soir-là?
Alors pour moi, personnellement, non, puisque forcément, ayant droit d'une personne décédée, le fonds de garantie réagit très vite dans ces cas-là. Ce qui est beaucoup plus compliqué, effectivement, ça va être... pour certains blessés, mais surtout pour les victimes psychologiques. J'ai l'exemple très clair d'un militaire de la Marine nationale qui n'est pas reconnu par le fonds de garantie parce qu'il est militaire, mais les autorités militaires ne le reconnaissent pas non plus en tant que victime parce qu'il est réserviste, donc assimilé civil. Donc cette personne-là n'a droit à aucune aide d'un côté comme de l'autre.
Vous avez globalement l'administration de votre côté ou face à vous, de l'autre côté d'une vitre?
J'ai envie de vous dire qu'avec le gouvernement actuel et ce qui est en train de se mettre en place avec cette fameuse déléguée interministérielle, j'ai pas
l'impression... La disparition du secrétariat d'État d'aide aux victimes des attentats.
Le secrétariat général d'aide aux victimes ayant disparu, ayant été rattaché à la ministre de la Justice et la nomination de cette déléguée interministérielle est pour moi une grosse erreur et j'ai le sentiment que malgré la lettre inter-association que nous avons adressée à Monsieur le Président, il ne nous a pas entendus sur toutes les difficultés auxquelles doivent faire face les victimes. C'est pas que la justice, c'est aussi le logement, le professionnel, la santé. Donc c'est tous les ministères qui doivent être concernés.
Émilie Petitjean, vous restez avec nous, bien sûr, face à vous dans ce studio de France Bleu Azur qui nous accueille ce matin. Marion Duvigneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du patrimoine historique de la ville de Nice et de la métropole et c'est à ce titre que vous avez entrepris un travail de mémoire. Il s'agit de collecter, de rassembler et surtout de conserver tous les objets, tous les messages qui avaient été déposés, notamment sur la promenade des Anglais après les attentats. Pourquoi ce travail ?
Alors c'est notre travail au quotidien de collecter tout ce qui peut aider à la mémoire de la ville, de ses habitants. Et effectivement, le lendemain du 14 juillet, on s'est dit c'est sans doute une des dates qui malheureusement vont marquer la chronologie de l'histoire de Nice. Donc c'était évident que c'était quelque chose qu'on devait retrouver dans les fonds d'archives. Voilà. Alors d'un côté, il y a des fonds d'archives, on va dire administratives. Mmh. On a les fonds du bureau du courrier, tout ce qui est lié aux délibérations du conseil municipal, les travaux, etc., qui rentraient dans notre champ de compétences habituel. Et puis, assez vite, avec le comité de suivi et l'association, et spécialement Émilie qui est ici, Cindy Pellegrini, on s'est dit que ce qui était au kiosque, il fallait aussi le sauvegarder.
Alors le kiosque, c'est le kiosque à musique qui se trouve au bout de la promenade des Anglais et qui a été le lieu quasiment naturel où les Niçois, les touristes, les gens qui passaient ici et bien sûr les familles des victimes sont venus après l'attentat déposer des objets. Comment s'est passée la collecte de ces objets ?
Alors ça s'est passé, on va dire tardivement du point de vue de l'archiviste. Nous, ça nous faisait un petit peu mal au cœur. On passait devant, on est passé au
mois
d'août.
Mais sans doute trop tôt du point de vue, d'un autre point de vue aussi. Il y a des gens qui auraient voulu que ça reste en plein air ici. Comment s'est passée la collecte ?
Pardon. Donc la collecte, ça s'est passé d'une manière assez protocolaire. On avait fixé une date qui a été communiquée à la presse et que Émilie a relayé par le biais des réseaux sociaux auprès des victimes. L'idée étant d'associer les familles. Donc il y avait une dizaine de représentants de familles qui étaient présentes. Mmh. Des gens, des monsieur tout le monde qui sont venus spontanément nous aider.
Exactement.
Et puis bien sûr aussi une équipe d'archivistes. Toute l'équipe était au complet, aidée par les services municipaux. Pour faire ça, on voulait que ça se ressemble à une chaîne humaine, avec en plus les huissiers de la mairie en grand uniforme, pour qu'on montre que ce n'était pas une opération, ce qui nous avait été reproché. On nous a dit, vous allez faire le vide, vous allez nettoyer pour qu'il n'y ait plus de traces.
Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces traces des attentats ? Ce sont des objets, ce sont des mots. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ?
Alors, physiquement, nous, en archives, on a notre petit jargon, on parle de mètres linéaires. Donc, en fait, ce sont 65 mètres linéaires de caisses, de papier bulle, de boîtes diverses et variées. Et dedans, on a une grande majorité de galets. Hein, les galets typiques.
Pris sur la promenade juste à côté.
Sur la plage. Voilà, les gens sont allés se servir et ont laissé des messages sur les galets. Donc ça, c'est, je pense, une spécificité niçoise. Les peluches aussi. Des peluches en très très grand nombre, puisque il y a eu beaucoup d'enfants parmi les victimes et puis que c'était un petit peu le symbole, le feu d'artifice, la joie, la famille. Donc beaucoup de gens sont venus mettre des peluches, d'autres jouets. Mais
des hochets même, il paraît.
Oui, petit peu. Une trottinette. Tout ce qui est le symbole de l'enfance, des livres pour enfants.
Oui. Et Émilie Petitjean, vous aviez laissé des objets, vous avez eu ce courage-là après l'attentat ?
Non, très honnêtement, la première fois où je suis retournée au kiosque, c'est avec Marion pour épargner tous ces objets. C'était la première fois que je remettais les pieds là-bas.
On a deux types de familles et de victimes. Ceux qui ont souhaité être présents sous le kiosque et avoir beaucoup d'objets, de photos qui représentaient leurs proches. Et puis d'autres victimes qui, au contraire, ne s'en sont pas approchées. C'est vraiment deux manières, j'imagine, de faire son deuil. Et nous, on a respecté ça. C'est-à-dire que pour certaines familles, il y a des caisses entières qui sont dédiées à leur famille. Mmh. Et pour d'autres, ce sont des objets d'anonymes.
Est-ce qu'il y a également des messages dans ce que vous avez recueilli ? Et si oui, que disent-ils ?
Alors malheureusement, c'est là où, quand je disais la collecte s'est faite tard, c'est qu'évidemment...
Entre-temps, il a plu, il y a le vent, il y a le soleil.
Voilà. Oui. Donc en fait, on a des messages de condoléances assez basiques, et puis ensuite des choses, des jeux de mots sur Nice, beaucoup de témoignages de paix.
Ouais.
Voilà.
Uniquement des témoignages de paix où on se souvient de la tension qu'il y a pu avoir par instant dans les jours qui ont suivi l'attentat. Est-ce qu'il y a aussi des messages de haine ou des messages adressés aux terroristes?
Alors, ceux-là, on ne les a pas trouvés dans les boîtes, puisqu'on a fait cette collecte en février. Mais si on l'avait faite en juillet, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de messages haineux. Entre-temps, je dirais entre la deuxième quinzaine de juillet et le mois de février, il y avait eu quand même de l'apaisement. Et on a plutôt des messages d'amour en direction des victimes que de la haine pour le terroriste, voire pour les politiques qu'on a eues dans la deuxième quinzaine de juillet. Il y avait des choses assez insultantes.
Alors ces objets, ces messages, ils n'ont pas vocation à rester dans des cartons comme aujourd'hui. Que vont-ils devenir? Est-ce qu'on va pouvoir les voir dans les années qui viennent?
Alors comme tout document, moi je vais vous faire une réponse d'archiviste. En fait, vous avez rappelé nos missions. Notre mission, c'est de collecter, ensuite de classer. Ce qu'on a fait. Maintenant, de conserver, on est dans ce temps de la conservation, puisqu'on va faire une opération de désinfection, puisque en ramassant les choses, on s'était rendu compte que c'était vraiment très sale. Voilà. Et ensuite, il y a la quatrième vocation des archives, effectivement, c'est la valorisation. Oui. Et là, la valorisation, ça peut être aussi bien aujourd'hui que dans deux siècles. Et moi, je ne peux pas me prononcer tout de suite. Il y a eu déjà des visites de victimes, il y a eu déjà des films.
Émilie Petitjean, vous souhaiteriez qu'on puisse les laisser à la vue du plus grand nombre?
Nous, au niveau de l'association, effectivement, on a un projet très ambitieux qui est la création d'un musée mémorial qui aura justement vocation à exposer tous ces témoignages de soutien. Et ça sera un mémorial un peu sur le même état d'esprit que celui de la Shoah ou celui de New York, avec pour objectif d'une part le devoir de mémoire et d'autre part une sensibilisation à la radicalisation, au terrorisme, qui pourra faire l'objet de sorties scolaires pour sensibiliser justement les générations futures à ce genre de drame.
Émilie Petitjean, Marion Duvigneau, vous restez avec nous si vous voulez bien jusqu'à 9h. On va poursuivre cette conversation dans quelques minutes. On sera rejoint également par Laure de Beaulieu, rédactrice en chef à France Bleu Azur, que vous connaissez toutes les deux, qui nous dira comment la radio vit depuis un an au rythme de ces attentats. Et puis Michel Boujna nous rejoindra également. Il fait partie des artistes qui demain participeront à la cérémonie nationale d'hommage aux victimes. Il viendra y lire un texte. Ce sera juste après la revue de presse. Il est 8h33.